De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi Audrey. Il y a quelques événements à informer entre autres. Parlement turc accepte que la Finlande entre dans l'OTAN. La Suède doit s'attendre. Demande de Najib Razak de réexamen de la décision d'appel a été rejetée. L'Indonésie et la Russie signent un accord de coopération en matière d'extradition. La Banque Indonésia espère que l'ASEAN tirera parti de l'agenda mondial des paiements transfrontalières. Sri Mulyani a déclaré que l'ASEAN a toujours contribué à 3% du PIB réel mondial. Le ministère de l'Industrie espère que l'industrie profitera de la foire de Hanovre 2023. L'utilisation de l'IKCEPA doit être optimisée. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le Parlement turc a approuvé un projet de loi permettant à la Finlande de rejoindre l'Alliance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. L'approbation de ce projet de loi a ouvert la voie à la Finlande pour devenir le 31e membre de l'Alliance occidentale alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine. Comme l'a rapporté Reuters vendredi 31 mars 2023, le Parlement turc est devenu le dernier des 30 États membres de l'OTAN à ratifier l'adhésion de la Finlande après que le Conseil législatif hongrois a approuvé un projet de la similaire plus tôt cette semaine. Le juge a rejeté la demande de révision de la décision de la Cour du Commonwealth sur l'appel final déposé par l'ancien premier ministre malaisien Najib Razak concernant l'utilisation abusive de fonds s'élevant à 42 millions de ringgit ou environ 142,77 milliards de roupies. Appartenant à SRC International SDNBHD, l'objet de la révision de la décision était basé sur une décision majoritaire du panel de juges du procès qui a été lu par le juge de la Cour fédérale Vernon Ong Lam Kiat à Putrajaya vendredi. Le procès s'est déroulé devant 5 juges présidés par le juge en chef Sabah et Sarawak. Abdul Razak Sebli sur le panel de 5 juges. 4 juges étaient d'avis qu'il n'y avait ni parti pris ni erreur dans la décision du juge précédent de la Cour du Commonwealth. De sorte que la demande de révision a été rejetée. Entre-temps, le procureur général adjoint ad hoc 5, Sitambaram, dans sa déclaration à la presse, a déclaré que la décision du tribunal fédéral indiquait que la décision contre Najib Razak avait été exécutée conformément à la loi et n'était pas politiquement motivée par l'accusation. L'Indonésie et la Russie signaient vendredi un accord de coopération en matière d'extradition à Nusa Dua Bali, afin que les deux pays aient une base légale pour demander l'extradition des auteurs de crimes de chaque pays. Le ministre russe de la Justice, Konstantin Anatolievich Kyuchenko, s'est rendu directement à Bali vendredi pour assister à la cérémonie de signature de l'accord de coopération en matière d'extradition avec le ministre indonésien du droit et des droits de l'homme, Yasona Lauli. Après la cérémonie de signature, Yasona Lauli à Bali a déclaré vendredi que le traité d'extradition était important pour l'Indonésie et la Russie car il permettait aux forces de l'ordre des deux pays de prendre plus facilement des mesures contre les crimes, en particulier les crimes transnationaux. Yasona a souligné que l'accord d'extradition faisait suite à la coopération en matière d'entraide judiciaire convenue par les deux pays en 2019. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, BI, Peri Warjio, espère que l'ASEAN pourra profiter de l'agenda mondial dans le domaine des paiements transfrontaliers. Ce programme est l'héritage de l'ASEAN, pas seulement pour l'ASEAN, mais aussi pour le monde. Cet espoir a été transmis par Peri Warjio lors de la cérémonie d'ouverture de la première réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN, AFMGM 2023, à Badung, Bali, vendredi. L'ASEAN a bénéficié de services de système de paiement transfrontalier plus rapides, moins chers, plus transparents et plus exclusifs pour stimuler les transactions, développer les économies et stimuler la croissance. Il a déclaré que sous la présidence indonésienne du G20, l'année dernière, 5 pays de l'ASEAN avaient signé un protocole d'accord MOU pour la connectivité transfrontalière des paiements. Plus tard cette année, l'Indonésie fera progresser cette coopération avec tous les membres de l'ASEAN et tirera parti de la numérisation pour l'inclusion financière. Cette année, l'État favorisera l'inclusion financière et économie dans un large éventail de la société, y compris les PME, les jeunes et les femmes. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que la croissance économique dans la région de l'ASEAN a toujours contribué à 3% du produit intérieur brut PIB réel du monde jusqu'à présent. La région de l'ASEAN a connu une forte croissance économique, en particulier entre 2010 et 2019. C'est ce qu'a déclaré Sri Mulyani lors de la cérémonie d'ouverture de la première réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de la Banque centrale de l'ASEAN, AFMGM, à Badung, Bali, en 2023. Elle espère que l'ASEAN continuera à veiller à ce que les réalisations puissent se poursuivre en renforçant la capacité de la région à répondre aux différents défis, à la fois les défis passés, les défis actuels et les défis futurs. En 2020, le PIB de l'ASEAN a diminué de plus que le taux de croissance mondial en raison de la pandémie de COVID-19. Puis en 2021, la croissance de l'ASEAN n'est toujours pas sortie des niveaux d'avant la pandémie. De sorte que, à ce moment-là, on s'attend à ce qu'une reprise complète se produise en 2022. L'ASEAN devait viser à devenir une région à croissance économique inclusive, forte et durable. Sri Mulyani a ajouté que de nombreuses organisations internationales prévoient toujours que l'ASEAN connaîtra une croissance positive en 2023, de sorte que la région a encore beaucoup de temps pour s'assurer que cette projection se réalisera en même temps. Le ministère indonésien de l'industrie espère que les acteurs de l'industrie et les exposants pourront profiter de l'élan de la participation de l'Indonésie au Salon des technologies industrielles Hannover Messe 2023, où l'Indonésie est un pays partenaire officiel. Le directeur général de la résilience régionale et de l'accès industriel international du ministère de l'Industrie, Eko S.A. Charyanto, dans un communiqué à Jakarta vendredi, a déclaré que son parti avait fait part de cette question lors de la réunion technique des corps opposants. De participation dans Hannover Messe 2023 à Jakarta jeudi 30 mars, lors de la Hannover Messe 2023, qui se déroulera du 17 au 21 avril 2023, l'Indonésie réunira 157 co-exposants et 41 ministères et agences dans le pavillon indonésien. Eko Cahyanto a souligné que la présence d'acteurs industriels indonésiens à la Hannover Messe 2023 a joué un rôle important. Il a expliqué qu'il y avait diverses séries d'activités liées à la participation de l'Indonésie en tant que pays partenaire officiel, tels que des conférences et des sommets d'affaires. En outre, cette exposition présente également des opportunités d'investissement dans la technologie industrielle en Indonésie par le biais de réunions de jumelage. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré qu'il était important d'optimiser l'utilisation de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Corée afin d'approfondir la coopération économique entre les deux pays. Lors de la quatrième réunion de la commission mixte indonésienne-sud-coréenne avec le ministre des Affaires étrangères Park Jin à Séoul vendredi, la ministre Retno Marsudi a expliqué que grâce à l'IKCEPA, les deux pays ont enregistré la valeur commerciale la plus élevée de 24,53 milliards. 24,53 milliards de dollars, soit environ 366,6 billions de roupies l'année dernière. Ce chiffre est en hausse de 33% par rapport à la valeur du commerce bilatéral entre l'Indonésie et la Corée du Sud en 2021. Cependant, les deux pays disposent encore d'une marge de manœuvre suffisante pour accroître leurs échanges afin d'atteindre l'objectif de 30 milliards de dollars américains, soit environ 448,4 billions de roupies. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi lors d'un communiqué de presse en ligne concernant sa visite de travail en Corée du Sud vendredi soir. Selon Retno, depuis la mise en œuvre de l'IKCEPA, au début de cette année, plus de 1000 certificats d'origine ont été délivrés pour obtenir des tarifs préférentiels d'une valeur commerciale de 52,88 millions de dollars, soit environ 790,3 milliards de roupies. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique les nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Jombang dans l'est de Java. La gardienne de l'internat islamique, la Raiba Hanifida Khairul Idawati, a déclaré jeudi que son parti a l'intention de construire un musée du Coran. À l'intérieur se trouve un tableau inscrit avec les versets sacrés du Coran. Cette inspiration est venue de ses visites dans plusieurs pays. En plus d'être inscrit avec les versets sacrés du Coran, il est également équipé des images afin que les visiteurs puissent apprendre et comprendre le sens contenu dans la lettre. Ce projet est en cours depuis environ 5 ans et représente maintenant environ la moitié du livre saint du Coran. Tout en peint avec calligraphie, la peinture est faite contemporaine avec une forme tridimensionnelle. Chaque verset est détaillé avec illustration. Il a dit que chaque peinture passe toujours par un processus de correction par un expert pour s'assurer de sa exactitude. La construction du musée a coûté plus de 3 milliards de roupias. Les nouvelles suivantes sont venues de Bantul, Yogyakarta. Le bureau culturel de la régence de Bantul, Yogyakarta facilite la représentation de l'art communautaire de ce groupe artistique régional dans divers endroits et n'est pas concentré dans des installations appartenant au gouvernement local. Le chef du bureau de la culture de Bantul, M. Nugroho Eko Setianto, a déclaré à Bantul mercredi. Actuellement, le spectacle artistique et culturel des groupes artistiques de la communauté ont crévi après avoir été limité en raison de la pandémie de COVID-19. Même ainsi, les arts de la scène prêtent toujours attention à l'aspect santé. Actuellement, il y a 1025 groupes artistiques à Bantul qui ont été enregistrés. Les dernières nouvelles sont venues de Mataram, Nusa Tenggara Ouest. L'Office du tourisme de la ville de Mataram, dans la province de Nusa Tenggara Ouest, prépare l'activité Lebaran Topat ou Ketopat 1444 Hijriah, qui est célébrée une semaine après l'Idul Fitr et impliquera les touristes qui se trouvent actuellement dans cette ville. La secrétaire de l'Office du tourisme de la ville de Mataram, Lenny Octavia, a déclaré mercredi à Mataram que la célébration de Lebaran Topat faisait partie du calendrier touristique de la ville de Mataram qui présente diverses attractions artistiques locales. Lenny a déclaré que les célébrations de Lebaran Topat se tiendraient dans deux lieux de sépulture sacrée pour les résidents, à savoir cimetière Luang Balok, le district de Sekar Bela, et le cimetière Bintaro, le district d'Ampenan. Les activités menées commencent par des pèlerinages funéraires et la prière, selaran, ngurisan ou raser les cheveux du bébé et se terminent par un repas avec des plats de ketupat et diverses spécialités locales qui sont la marque de fabrique de la célébration de Lebaran Ketupat. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
Oh.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er avril 1914, la fondation de la ville de Malang. La ville de Malang, située dans la province de Java Oriental, l'Indonésie. Elle est la deuxième plus grande ville de Java Oriental après Surabaya. Malang a été fondée sous le gouvernement néerlandais le 1er avril 1914 par Eka Broekveld comme premier maire. La ville de Malang est située sur un plateau courant, une superficie de 145,28 km² qui est une enclave de la région de Malang. Cette ville est également connue comme une ville d'éducation. Il existe plusieurs meilleures universités telles que l'Université Brawijaya, l'Université d'État de Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang et l'École Polytechnique d'État de Malang. Le 1er avril 1963 est la création de l'Université d'État de Jambi. L'Université d'État de Jambi a été officiellement confirmée par le décret du ministre de l'Enseignement supérieur et des Sciences numéro 25 de 1963 du 23 mars 1963. Le comité préparatoire pour la création de l'Université d'État de Jambi a alors ouvert deux nouvelles facultés, à savoir la faculté l'agriculture et la faculté d'élevage, de sorte que lors de son inauguration, le 1er avril 1963, l'Université d'État de Jambi comptait quatre facultés, à savoir la faculté de sciences économiques, faculté de droit, faculté d'agriculture et faculté d'élevage. Le 1er avril est la date de l'anniversaire de l'Université de Jambi. Le 1er avril 1979, l'Iran devient officiellement la République islamique. L'Iran est officiellement devenu la République islamique le 1er avril 1979 sur la base des résultats d'un référendum national de la plupart des Iraniens. Cette révolution est unique, elle a choqué le monde entier, contrairement à de nombreuses révolutions dans le monde. La révolution iranienne n'a pas été causée par défaite à la guerre, crise monétaire, soulèvement paysan ou mécontentement militaire. La révolution a produit des changements énormes à grande vitesse, a vaincu un régime, même si le régime était protégé par les forces armées, et a remplacé l'ancienne monarchie par une théocratie basée sur la tutelle des juristes islamiques ou Velayat i Faqih. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kenyamanan bagai Secoklat tanah warna bagai biru sebiru lautan yang luas. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku berduduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku tidak pernah mati.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Jokowi espère que la coopération internationale augmentera l'économie du sud de Sulawesi. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, s'est félicité de la coopération conclue par les entreprises de la région de Lubu Oriental avec des pays, à savoir le Brésil, la Chine et les États-Unis. Le chef de l'État espère que cette coopération contribuera à améliorer le bien-être de la population dans le sud de Sulawesi. Cela a été transmis par le président Joko Widodo dans ses remarques lors de l'inauguration de Taman Kehati Sawer Gading Walasia à PT Wali Indonesia, la région de Luwu Oriental, Sulawesi du Sud, jeudi 30 mars 2023. Le président Joko Widodo a déclaré que dans la région de Luwu Oriental, dans la province de Sulawesi du Sud, il y aura une coopération entre quatre pays. À l'avenir, on espère que cette coopération contribuera aux recettes non fiscales de l'État dans les provinces, les districts et aura un effet de bien-être sur la communauté. Le président a déclaré que des entreprises sont jointes à la coopération composée des entreprises géantes du monde. Il espère également que cette coopération pourra améliorer l'économie de pays, notamment dans le sud de Sulawesi. Le chef de l'État espère que l'effet économique sur la province et le pays permettra une meilleure croissance économique. Joko Widodo a déclaré les raisons pour lesquelles ces entreprises souhaitent investir en Indonésie. L'un d'entre eux est que l'Indonésie possède les plus grandes réserves de nickel au monde. Par conséquent, le président a réaffirmé que le gouvernement ne voulait pas que l'exportation de nickel brut se poursuivent. Le nickel doit être transformé en produit semi-fini ou en produit fini avant d'être exporté. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
jawabnya. Apa yang kamu cari ada di depanmu. Lupakan saja dia. Maafkan saja dia. Hadapilah hidupmu. Terima nasibmu. Dia tak cinta kau.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter La Glace Selendang Mayang de Jakarta. La Glace de Selendang Mayang est une cuisine traditionnelle de Jakarta qui est populaire jusqu'à présent. C'est une boisson à base de sagoutier qui est versée avec du lait de coco et de la cassonade. Le goût sucré et frais rend cette boisson traditionnelle souvent servie lors de divers événements tels que l'Idul Fitr et pendant le mois de Ramadan. La glace de Selendang Mayang est souvent servie comme menu de l'iftar. Cette boisson ressemble à un gâteau en couche à base de farine de sagou. Les couches sont composées de blanc, de rouge et de vert. Les vendeurs coupent toujours le gâteau Selendang Mayang qui est généralement placé dans un vanage de forme rectangulaire et ensuite servi dans un bol arrosé d'un édulcorant à base de cassonade ou de sirop, du lait de coco et aussi de morceaux de glaçon. Le nom de la glace de Selendang Mayang ne peut être séparé du folklore de Betawi, si Jampang Mayang Sari, qui apparut au début des années 1900. Dans cette histoire, Mayang Sari est un personnage célèbre pour sa beauté. Par conséquent, si vous portez une attention particulière, la boisson Selendang Mayang, qui a de belles couleurs, semble rayonner la beauté de Mayang Sari. Le nom de Selendang vient de sa forme qui est large et gracieuse lorsqu'on la secoue comme un châle de danseuse. Les couleurs rouge, blanc et vert sont frappantes et uniques, être caractéristiques de la glace de Selendang Mayang. Des couleurs qui éveillent l'appétit pour déguster ce plat. La glace de Selendang Mayang qui nécessite des ingrédients tels que la farine de sagoutier, la farine de riz, les feuilles de pandan, le sel, le sucre cristallisé, la cassonade, les colorants alimentaires rouge et vert et le lait de coco, généralement vendu à l'aide d'un cornichon et vendu à environ 10 000 rupiah par bol. Même si cette spécialité culinaire traditionnelle de Jakarta se fait rare, on peut encore la trouver dans plusieurs endroits tels que Petak 9, Palmerah, Kampung Situ Babakan, Kampung Condet, La Vieille Ville et plusieurs autres endroits. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Adalah misteri yang takkan bisa dimengerti. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang. Belajarlah mengikhlaskan sebuah ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu. Dan yakinlah ada rencana yang indah tersembunyi di balik setiap doa dan air mata. Semua indah pada waktunya. Badai datang menakutkan, namun ada kalah Tuhan langit hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan.
Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur intitulée Le festival de l'éclipse solaire totale 2023. Le gouvernement de la région de Biak Numfor en Papouasie organisera un festival de l'éclipse solaire totale du 18 au 20 avril. Cette activité fait partie d'une série d'agenda vers Sel Teluk Cendrawasih 2023. Le chef de l'Office du tourisme de Biak Numfor, Oni Dangebun, a déclaré que le festival de l'éclipse solaire totale était organisé pour la première fois pour voir des phénomènes naturels, à savoir l'éclipse à Biak. Il a dit que les éclipses solaires totales sont deux types différents d'éclipses qui se produisent en même temps. On estime que l'apparition de l'éclipse solaire totale de 2023 pour la région orientale de la province de Papouasie se produira à midi 20h de l'Indonésie orientale ou 10h20 de l'Indonésie occidentale et culminera à 13h57 de l'Indonésie orientale ou 11h57 de l'Indonésie occidentale. Le jeudi 20 avril 2023, presque certaines parties de l'Indonésie pourront observer l'éclipse solaire. Pour ceux qui sont sur le chemin de totalité, où l'ombre ombrale se déplacera d'ouest en est, produisant une bande étroite de la surface de la Terre, l'occasion d'assister à l'un des sites les plus étonnants de la nature, à savoir l'éclipse solaire totale. Les zones qui sont sur le chemin de la totalité se trouvent dans la province des Moluques, Papouasie occidentale et la province de Papouasie. Les observations en dehors de ce chemin peuvent encore observer les phénomènes naturels de l'éclipse solaire partielle. On espère que le festival de l'éclipse solaire totale 2023 recevoir de nombreuses visites touristiques de l'étranger et du pays pour voir directement l'éclipse solaire totale comme un phénomène naturel rare de bien. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Kroncong intitulée Masih Belum Lupa, chantée par Annette Delicia Nasution, featuring Faifian. La chanson Masih Belum Lupa est une chanson composée par Ade Govinda, sortie le 7 avril 2022. Cette chanson a été écrite par Ade, basée sur une expérience réelle, sur des sentiments qu'il est encore très difficile d'oublier d'un cœur brisé, même si cet incident est passé. Bon, chers auditeurs, voici Annette Delicia Nasution avec Faifian dont le titre est Masih Belum Lupa. Bonne écoute!
Walau semesta berkata beda, aku harus tangguh hadap hatinya.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.